veux un scoop ? Carlos Alcaraz ne conservera pas son titre à New York. En effet, je ne le vois pas du tout triompher à l'US Open. Figure-toi qu'il faut remonter à 2008 pour voir un joueur conserver son titre. Et c'était Roger Federer lorsque le Suisse s'était imposé 5 fois de suite entre 2004 et 2008. Je t'en dis pas plus, on va analyser le tirage au sort du dernier majeur de l'année. C'est parti, jingle! En tant que dernier grand chelem de l'année, l'US Open a souvent réservé son lot de surprises. Sur les 10 dernières éditions, on a 7 lauréats différents, 3 fois Nadal, 2 fois Djokovic, puis Cilic, Wawrinka, Thiem, Medvedev, ainsi que Alcaraz. Ce qui fait que si on compte bien, on a 4 joueurs qui ont débloqué leur compteur en majeur à l'US Open, dont 3 sur les 3 dernières éditions. C'est d'ailleurs en 2020 que la surface a changé pour être beaucoup plus rapide que par le passé. Du coup, si on s'intéresse un petit peu aux demi-finalistes qu'on a eu sur ces 3 dernières éditions depuis ce changement de surface, on note Karen Augusta, Zverev, Medvedev, Thiem, Khachanov, Ruud, Alcaraz, Tiafoe, Djokovic et Auger-Aliassime. Donc certes, il y a une certaine forme de volatilité dans ces différents profils. Par contre, on note quand même des similitudes, notamment le service, qui est un point important sur une surface rapide. Alors je sais ce que tu vas me dire, on n'a pas eu une Rogers Cup ni un tournoi de Cincinnati très folichon en termes de niveau tennistique. Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ces deux Masters 1000 conditionnent un petit peu le niveau qu'on aura à l'US Open ? Bah, figure-toi que pas forcément, parce que si on prend les 3 dernières éditions de l'US Open, elles ont été assez marquantes. En 2020, on sort de la pandémie, on a la disqualification de Novak Djokovic. En 2021, il y a ce quasi grand chelem de Djokovic avec cette défaite en finale contre Medvedev. En 2022, il y a le parcours dantesque de Carlos Alcaraz pour arriver à décrocher son premier titre en majeur. Et pourtant, à chaque fois, on n'avait pas eu des éditions très palpitantes de Cincinnati et de la Rogers Cup. En 2020, donc, il n'y avait eu que le tournoi de Cincinnati qui avait été joué à New York, où la finale, ça avait été Raonic contre Djokovic. En 2021, on avait eu à la Rogers Cup un Opelka Medvedev et un Rublev Zverev à Cincinnati. Et en 2022, là je pense que c'est le pire, sachant qu'on avait eu Karen Augusta Jurkacz au Canada et Čurić Tsitsipas dans l'Ohio. Donc voilà, on n'a pas eu des très bons Masters 1000 et pourtant derrière, on a eu quand même de très bonnes éditions de l'US Open. Donc la corrélation n'a pas forcément lieu d'être, et encore plus par rapport au lauréat de l'édition de l'US Open. Parce que en 2020, Dominic Thiem s'était fait sortir au premier tour à Cincinnati contre Filip Krajinovic. En 2021, c'est peut-être l'exception, Medvedev qui avait fait une très bonne campagne dans les deux Masters 1000 avec un titre au Canada et une demi-finale perdue contre Rublev à Cincinnati. Et en 2022, Alcaraz il avait fait un premier tour contre Tommy Paul au Canada et un quart de finale perdu contre Cameron Norrie à Cincinnati. Donc là encore, la forme des deux Masters 1000 ne conditionne pas forcément la forme des joueurs pour l'US Open. Et si t'es pas encore convaincu du fait qu'il faut impérativement suivre ce tournoi à l'US Open, je vais te donner une bille supplémentaire, le fait qu'il va falloir scruter si la passation de pouvoir qu'on a pu entrevoir à Wimbledon avec ce titre de Carlos Alcaraz en 5-7 contre Novak Djokovic va se poursuivre ou non à l'US Open, à moins que le Serbe tape du poing sur la table pour montrer que c'est lui le patron. Une fois n'est pas coutume, avant de s'intéresser au tirage au sort, on va balayer les 8 premières têtes de série, à commencer par Carlos Alcaraz. En 2023, 53 victoires, 6 défaites, dont seulement 3 petites défaites sur dur, contre Sinner à Miami, contre Paul au Canada, et récemment contre Novak Djokovic en finale à Cincinnati. Si on s'intéresse un petit peu à son historique avec l'US Open, finalement l'Espagnol n'a jamais connu la défaite à New York. 11 victoires et un abandon contre Auger-Aliassime en 2021. Par contre, si on regarde d'un peu plus près ces matchs, sur ces 11 victoires, il y en a seulement 3 qui ont été remportés en 3-7 contre Norrie, Coria et Brooksby. Sinon, il lâche au moins un set systématiquement, voire 2, car c'est 2 victoires en 4-7 et 5 victoires en 5-7. Et ça pourrait avoir son importance, on l'a vu, par rapport à son parcours à Cincinnati où il a dû batailler à chaque rencontre. Et c'est vrai que je suis assez partagé concernant Carlos Alcaraz. J'ai été épaté par la finale qu'il nous a faite où il a vraiment su hausser son niveau de jeu contre Novak Djokovic, et finalement il est rattrapé que par son physique à la fin où il crampe. Mais faut rappeler quand même qu'il s'est imposé à Wimbledon et derrière il n'a pas fait de réelle coupure, il a enchaîné très rapidement avec cette exhibition à l'Open Cup. Et si on regarde son historique par rapport à son premier sacre en majeur en 2022 à l'US Open, derrière c'est quoi? C'est 10 matchs disputés, 6 victoires, 3 défaites et un abandon contre Holger Rune au Rolex Paris Masters. Mais ensuite il a vraiment pu couper, il est revenu qu'en février. Ce qui fait qu'il a pu vraiment se remettre dans un très bon état d'esprit, il a pu faire un reset mental, alors que là, il doit enchaîner coup sur coup avec encore un second semestre. Et c'est vrai que mon introduction, c'était un peu de la provoque, Mais je trouve qu'il y a un contexte qu'il faut prendre en compte concernant Carlos Alcaraz. Ça voudrait dire quoi s'imposer à l'US Open? Ça voudrait dire défendre son titre, quelque chose qui n'est plus arrivé depuis 2008. Faire coup sur coup Wimbledon et l'US Open, ils sont pas 50 à l'avoir fait. Il y a Lever, Connors, McEnroe, Baker, Sampras, Federer, Nadal et Djokovic. Donc tout ça mis bout à bout fait que j'ai d'énormes doutes. Ensuite on a Novak Djokovic en 2023, 38 victoires, 5 défaites avec une seule déconvenue sur dur, c'était en début d'année contre Daniil Medvedev à Dubaï. Son historique avec l'US Open, 82 victoires pour 13 défaites, seulement 3 titres. Le dernier en date c'était 2018 en finale contre Juan Martín Del Potro. 6 finales perdues, la dernière 2021, et justement en 2021 c'est là où il jouait pour le Grand Chelem. L'impression laissée par le Serbe, elle est plutôt positive, sachant qu'il a coupé après cette finale perdue à Wimbledon. Il n'a pas participé à Toronto, il est revenu pour Cincinnati. Derrière, il décroche le titre, une semaine plutôt tranquille. Cette finale contre son concurrent direct qu'il remporte dans un match serré, dans un match physique. Daniil Medvedev en 2023, 50 victoires, 11 défaites, avec seulement 3 petites victoires sur les deux Masters 1000 contre les Italiens Musetti deux fois et Arnaldi, et des défaites contre Alex de Minaur et Alexander Zverev. Par contre, il comptabilise 5 titres cette saison, dont 2 en Masters 1000. À l'US Open, c'est un grand chelem qui lui réussit. 23 victoires, 5 défaites, 1 titre en 2021. Et sur ses 4 dernières participations, c'est 1 titre, 1 finale et 1 demi-finale. Donc c'est plutôt pas mal pour le joueur russe. Sa seule déconvenue, c'était en 2022 contre Nick Kyrgios. Par rapport à l'impression laissée, là aussi, on est vraiment mitigé concernant le joueur russe. Forcément, le dur, c'est une surface qui lui réussit. En témoigne ce qu'il a fait en début de saison quand même, par rapport à ses 25 victoires, une défaite pour 4 titres après sa déconvenue à l'Open d'Australie, avec seulement cette défaite en finale à Indian Wells contre Carlos Alcaraz. Donc forcément, il adore ses conditions, son jeu se marie parfaitement dessus. Par contre, ces derniers mois, ben ça a été compliqué. Il y a eu cette demi-finale à Wimbledon où finalement il n'a joué personne. Il aura battu au mieux un top 35. Et ces deux Masters 1000 où il se rate. Et généralement, Medvedev, quand il réussit à l'US Open, il a fait une bonne campagne dans ses Masters 1000 en 2019, 2021. Il en gagne au moins un des deux. Holger Rune, qui a pris la 4e place mondiale en 2023, 39 victoires, 15 défaites, qui est dans une année de transition comme Alcaraz en 2022, qui a fait un gros cours au Lexpari Masters avec cette finale dantesque contre Novak Djokovic et qui maintenant va devoir structurer son jeu et ses résultats. Là, c'est quand même deux finales en Masters 1000 à Monaco et à Rome qu'il perd, je trouve, un petit peu dans la tête. Et depuis Wimbledon, le Danois inquiète. 2 défaites contre des joueurs américains sur les Masters 1000. Il a participé à la Open Cup et c'est surtout physiquement que les voyants sont au rouge au niveau de son poignet et son dos. On peut rajouter à ça que pour moi, Holger Rune, c'est un joueur qui préfère le dur intérieur. Sachant qu'au niveau de ses statistiques, en dur extérieur, c'est 19 victoires pour 19 défaites. Et en dur intérieur, c'est 26 victoires pour 7 défaites. Casper Ruud en 2023, 29 victoires, 17 défaites avec un seul titre à Estoril et certes cette finale à Roland-Garros. Il a gagné contre le HK dans cette préparation de ses deux Masters 1000 et perdu contre Davidovich Fokina et Purcell. L'US Open, il était finaliste en 2022, 9 victoires, 5 défaites. Et pour lui, le Norvégien, c'est vrai qu'on a l'impression que cette saison doit enfin se terminer. Il a du mal, il traîne un petit peu ses lacunes cette intersaison. Il a fait des exhibitions avec Rafael Nadal. Ce manque de préparation, le fait qu'il est revenu trop tôt après cette blessure aux abdominaux. Et pour lui, c'est compliqué, il a pas mal de points à défendre sur cette fin de saison. Yannick Sinner maintenant avec 43 victoires, 14 défaites en 2023, un titre à Toronto et Montpellier. Par rapport à 2022, on le sent prêt physiquement à passer des échelons. Cette demi-finale en majeur, ce premier titre en Masters 1000, il confirme alors que l'an dernier, il était beaucoup plus friable dans ce compartiment du jeu-là. À rajouter à ça qu'il a progressé au service, il a repris son ancien geste depuis Roland-Garros et qu'il essaie de varier un petit peu plus, notamment en distillant quelques amortis. À l'US Open, 7 victoires, 4 défaites et ce match dantesque en quart de finale en 2022, perdu contre Carlos Alcaraz en 5-7. Yannick Sinner, il a participé à 15 grands chelems, c'est 4 quarts de finale et une demi-finale, et sur ses 7 dernières participations en majeur, seulement 3 fois, il n'a pas atteint le stade des quarts de finale. Tsitsipas, notre lover grec en 2023, c'est 39 victoires, 15 défaites avec un petit titre à Los Cabos et seulement une victoire sur ses tournois de préparation avant l'US Open contre Ben Shelton. L'US Open, c'est son tournoi maudit, 5 victoires, 5 défaites. Il n'a jamais passé le 3e tour en carrière. Rends-toi bien compte, si on compare avec Wimbledon, qui devrait être un tournoi là aussi où il n'est pas très à l'aise, bah, dans le Grand Chelem britannique, c'est 8 victoires pour 6 défaites. L'an dernier, il s'est fait sortir d'entrée contre Galan et c'est lié, je pense, à la temporalité par rapport à quand se passe ce tournoi dans l'année, sachant qu'il arrive plein d'énergie en début de saison à l'Open d'Australie. Généralement, il n'a pas fait de coupure, il arrive avec du rythme, des repères, et derrière, petit à petit, ça va s'essouffler. Et là, ben, le creux de la vague, c'est vraiment à l'US Open, où derrière, il a un petit regain sur la saison indoor. Enfin, André Roubleff, en 2023, c'est 40 victoires pour 17 défaites avec son premier titre en Masters 1000 à Monte Carlo depuis Wimbledon. C'est un titre à Bastad et des déconvenues à Hambourg contre Altmaier et deux défaites d'entrée à Toronto et Cincinnati. À l'US Open, c'est le majeur qui lui réussit le mieux, sachant qu'il a 3 quarts de finale là-bas sur ses 8 en carrière. Et c'est là-bas qu'il s'est fait connaître avec ce quart perdu contre Rafa en 2017. Cela étant dit, on va pouvoir analyser le tirage au sort et comme d'habitude, on va balayer quart de tableau par quart de tableau. Si tu nous connais pas, nous, c'est Games 10 Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smasher le bouton pour t'abonner, sachant qu'on promet une couverture complète de ce dernier majeur de l'année. D'ailleurs, si tu veux avoir une conversation quotidienne avec nous, on a un Discord qui va te permettre de réagir un petit peu à chaud sur les différents matchs de ce majeur. Je te mets bien sûr tous les liens en description. Et si tu ne connais pas notre concept d'analyse de tirage au sort, on va balayer chaque quart de tableau en parlant bien sûr des principales têtes de série, des joueurs qui ne sont pas dans les 32 premières têtes de série, qui peuvent potentiellement créer la surprise avec une analyse un petit peu complète pour savoir qui s'en tire le mieux et bien sûr à la fin notre pronostic. On commence tout de suite avec le quart de Carlos Alcaraz où il retrouve avec lui en tête de série Evans, Krikspoors, Nori, Zverev, Dimitrov, Echeverry ainsi que Sinner. Les coupeurs de tête Thompson, sachant qu'au premier tour l'Australien va jouer VDZ qui est en méforme totale en ce moment. Puis Galan ou Evans, donc l'Australien peut-être passer 2-3 tours dans ce tournoi de l'US Open, ainsi que Vukic qui a 7 victoires et 5 défaites depuis Wimbledon mais qui a hérité d'Alexander Zverev au premier tour. On sait l'Australien qui a très bien performé il y a quelques semaines avec son très bon service, également cette préparation retardée côté coup droit où on sait pas du tout où il va tirer, donc ça peut être un faiseur de troubles même s'il joue l'allemand d'entrée. Le quart théorique c'est Alcaraz contre Sinner. Si on reprend le parcours de l'Espagnol, Kopfer, Harris ou Pella, Thompson et Krikspoors en 8e. Ce qui fait qu'on a quand même un bon tirage pour Carlos Alcaraz. Il va pouvoir se rôder dans ses premiers tours. À mon avis, il peut perdre un ou deux sets, grand maximum. Par contre, les choses vont commencer à se corser en quart de finale. Son potentiel adversaire, Yannick Sinner, lui, c'est Hanfmann, Sonego, Wawrinka et Zverev. Donc l'Italien, il est tranquille sur ses 3 premiers tours jusqu'à ce qu'il joue Alexander Zverev, l'Allemand qui mène 3-1 dans ses confrontations contre l'Italien. Et surtout, il est quand même à 5 victoires pour 2 défaites depuis Wimbledon. Il est inconstant, Alexander Zverev, sachant qu'il est capable de prendre seulement 3 jeux à Davidovich Fokina à Toronto et derrière d'éliminer Medvedev à Cincinnati et de se faire une demi-finale où il va faire un bon match contre Novak Djokovic. Donc le principal obstacle à l'Italien, c'est vraiment l'Allemand où ce match va décider, je pense, de l'adversaire en quart de finale de Carlos Alcaraz. Avec Zverev qui a, comme je te le disais, Vukic d'entrée, puis Altmaier, Dimitrov ou Murray, donc potentiellement un gros troisième tour contre le Britannique s'il arrive à se hisser jusque là, sinon ben, je pense qu'on a de fortes chances d'avoir ce Sinner Zverev en 8e. Donc plutôt un bon quart de tableau jusqu'en quart de finale avec voilà cette interrogation de savoir si Alcaraz va plutôt jouer Zverev ou Sinner, mais pas trop de pièges à l'horizon de ce qu'on peut voir. Le second quart de tableau, c'est celui de Daniil Medvedev. Il retrouve en tête de série Čorić, Jarry, Demi-Nor, Khachanov, Jurkač, Humbert et Rublev. Les coupeurs de tête, Purcell, qui est quand même l'Australien à 6 victoires pour 4 défaites depuis la fin de la saison sur gazon avec des matchs ultra convaincants contre Alcaraz et Murray. Par contre, il est toujours en lice cette semaine à Winston-Salem. Mickelson, Isner, qui va prendre sa retraite, le géant américain qui nous a fait vibrer avec tous ses aces et ses combats à rallonge à Wimbledon. Il sera toujours très dangereux quand c'est son dernier tournoi comme ça. Il va être porté par le public. Berrettini, Roussoufori et Monfils. Donc on voit vraiment un quart de tableau avec énormément de joueurs pièges qui ne sont pas dans les 32 premières têtes de série. Le quart théorique, c'est Medvedev contre Rublev. Si on reprend le quart et le parcours de Daniil Medvedev, Balaz, Purcell ou O'Connell, Čorić, Jarry ou Demi-Nor en 8e. Donc autant te dire que Daniil Medvedev, déjà qu'il est en manque de confiance en ce moment, qu'il n'a pas été convaincant sur Toronto-Cincinnati, mais la vraie parcours du combattant avec des matchs pièges, son premier tour tranquille, ensuite Purcell ou O'Connell, des styles de jeu qu'il n'aime pas jouer, qui varient énormément, qui montent au filet, qui maîtrise voilà parfaitement le slice, ça sent le piège pour le russe, même si comme je te le disais, ben Purcell est encore engagé cette semaine, donc à voir combien d'énergie il va laisser là-bas. Ensuite, Čorić, si c'est lui, a priori ça le fait, et Jarry Demi-Nor, Demi-Nor qui reste sur 2 victoires contre Daniil Medvedev, et surtout depuis Wimbledon, c'est 11 victoires pour 4 défaites. avec cette première finale en Masters 1000 à Toronto, perdu contre Yannick Sinner. Donc certes, il a un déficit de puissance, mais on sait qu'il a le jeu pour faire la différence contre le Russe, sachant qu'il joue dans la même filière que lui, et c'est lui qui va plus aller vers l'avant. Rublev, son parcours, lui aussi, c'est Koh-Lanta, Roussoufori, Monfils, Berrettini, Hurkacz. On a Berrettini qui reste sur deux quarts de finale quand même à l'US Open. Une victoire seulement depuis Wimbledon, il a été plutôt convaincant. Hubert Hurkacz, qui est un peu le tube de l'été. 6 victoires, 3 défaites, donc 2 défaites contre Carlos Alcaraz, mais à chaque fois, il a vraiment poussé dans ses retranchements, il n'a jamais passé le deuxième tour à l'US Open. Berrettini qui doit passer Humbert et Hurkacz qui peut aller jouer Isner au troisième tour, sachant que je pense que l'américain va être porté par son public, et il est dans la partie de Khachanov qui signe aussi son retour, donc à voir dans quelle forme le Russe revient. Donc là vraiment on a Medvedev et Rublev qui ont vraiment un parcours pas évident, ça va être tendu de retrouver les deux joueurs russes en quart de finale, sachant qu'ils ont pas mal de matchs pièges l'un comme l'autre, et on peut je pense avoir des surprises dans cette partie de tableau, on verra dans la partie que je pronostique. Le troisième quart c'est celui d'Holger Rune où il retrouve Casper Ruud, Korda, Manarino, Tchafo, Paul, Davidovich Fokina ainsi que Bublik. Les coupeurs de tête, j'en ai noté un, c'est Ben Shelton, même s'il n'est pas convaincant depuis son quart de finale à l'Open d'Australie. 18 défaites, 7 victoires, mais on sait que l'Américain, avec sa jeunesse, sa fougue, il peut briller devant son public. Le quart théorique, Ruud contre Rune. Par rapport au parcours d'Holger Rune, Karbales, Lejka, Shelton ou Bublik, Paul ou Davidovich Fokina en 8e. Déjà, comme je te disais, la première interrogation pour lui, c'est son physique, le poignet, le dos. Est-ce que ça va tenir ou non? Parce qu'on sait qu'il est capable de bien jouer. Mais il a quand même des matchs intéressants contre Lejka au second tour, même si le Tchèque est un petit peu à reculons depuis sa bonne performance à l'Open d'Australie. Shelton ou Bublik, des matchs un petit peu imprévisibles et surtout un 8e de finale compliqué contre Tommy Paul ou Davidovich Fokina. Tommy Paul, c'est 3e tour en 2022. Il avait jamais remporté de match à l'US Open, donc il a eu ce premier gros combat contre Zapata en 2022. On sentait que c'était plus dans la tête, mais ça a duré longtemps. Derrière, il bat Korda en 5-7 et il arrive un petit peu lessivé contre Casper Ruud où il finit sur un 6-0. Mais derrière, on sait que le Norvégien va en finale. Donc, si Tommy Paul avait réussi à passer cet obstacle, peut-être qu'il serait allé très loin dans ce tournoi. 7 victoires, 3 défaites depuis la fin du gazon avec une victoire sur Alcaraz. Et surtout, il y a seulement 4 joueurs en cette saison 2023 qui comptabilisent plus de 20 victoires sur dur avec une réussite de 70% de victoires en tout sur la surface. Yannick Sinner, Daniil Medvedev, Novak Djokovic ainsi que Tommy Paul. Mais Tommy Paul devra se méfier de Davidovich Fokina qu'il pourrait rencontrer au troisième tour, l'Espagnol qui a fait une bonne campagne sur ses Masters 1000 avec certes cet abandon contre Novak Djokovic, mais une demi-finale perdue contre Alex de Minaur à Toronto. Donc ça sera vraiment le match à surveiller. Et le parcours du Norvégien Casper Ruud, inqualifié, Wolf, puis les choses vont vraiment devenir très compliquées pour lui. Korda, puis Tchafo. Tchafo qui a fait demi-finale ici en 2022, qui a connu une année compliquée depuis sa demi à Indian Wells. 3 victoires, 3 défaites depuis Wimbledon, mais qui a un bon parcours. L'Américain et Sammy Korda aussi qui peut être dangereux devant son public qui se relance petit à petit. Et enfin, le dernier quart, c'est celui de Novak Djokovic. Il retrouve en tête de série Tsitsipas, Eubanks, Musetti, Fritz, Ojeliasim, Cerundolo et Djere. Les coupeurs de tête, Raonic, Nakashima et McDonald. Le quart théorique, Djokovic et Tsitsipas. Et s'il y a bien quelqu'un qui doit être content dans ce tirage au sort, c'est Novak Djokovic. Pour lui, vraiment, il a hérité d'une superbe partie de tableau. Müller d'entrée, Zapata ensuite, Nakashima, Ujere, Cerundolo, McDonald, Ojeliasim en 8e de finale. Comme je te le disais au niveau des coupeurs de tête, McDonald qui a un seul match gagné à l'US Open mais qui a 6 victoires, 3 défaites depuis la fin du gazon, qui peut être très dangereux. Il jouera Ojeliasim. Et le parcours de Tsitsipas, tout ce qu'il adore. Raonic, Popirin, Eubanks et Frins, que des gros serveurs qui vont pouvoir exploiter ses lacunes à la relance. Et côté revers, certes, Eubanks reste sur 3 défaites de suite, seulement 3 victoires depuis la fin de son épopée sur gazon et notamment à Wimbledon. Et Tyler Fritz qui a fait au mieux un troisième tour à l'US Open, qui est un joueur qui perd surtout dans les 250 et qui n'arrive pas forcément à assurer sur ses tournois de catégorie supérieure, notamment Masters 1000 et en Grand Chelem, sachant que là depuis Wimbledon c'est 11 victoires pour 3 défaites. Il a été titré à Atlanta, il n'a plus passé la première semaine d'un majeur depuis Wimbledon 2022, et au final son meilleur résultat dans les gros événements cette saison, c'est une demi-finale à Monaco qui l'eut cru sur terre battue, Tyler Fritz. Mais ouais, Tsitsipas, pour lui, c'est impossible ce parcours. Déjà qui sous-performe à l'US Open, c'est son grand chelem maudit. En plus, là, il joue que des gros serveurs avec Raonic d'entrée, le match piège par excellence. Et Novak Djokovic, ben voilà, c'est du pain béni. C'est une très bonne partie de tableau pour lui pour aller, je pense, au moins en demi-finale, voire plus, assez facilement. On arrive à la partie qui t'intéresse, les pronostics, là où c'est jamais évident en début de quinzaine d'un grand chelem de se projeter aussi loin. Dans un premier temps, je vais t'afficher les cartes théoriques, puis dans un second temps, les cartes que personnellement je vois. Mais avant, un mot du sponsor de cette vidéo qui va nous accompagner durant l'ensemble de cette quinzaine à l'US Open Tennis, Matrix, qui est une application qui va te permettre d'affûter tes analyses tennis. Et l'application est vraiment très simple d'utilisation, 80% du contenu est gratuit. Tu la télécharges, tu crées un compte et derrière tu vas avoir accès à la carte du jour avec l'ensemble des matchs du circuit ATP. Donc après, tu vas prendre la fiche qui t'intéresse et la plupart du temps, tu vas avoir une analyse. Donc vraiment, je trouve que ça permet de nourrir un petit peu ta culture tennis, de nourrir tes analyses et de confronter ce que tu penses par rapport à ce que quelqu'un qui a analysé la rencontre pense. Et derrière, bah, si t'es un parieur, ça te permet de te diriger plutôt vers un pari qu'un autre. Bien évidemment, c'est un jeu responsable pour les majeurs, donc ne parie pas de l'argent que tu n'as pas. Je te mets tous les liens en description et justement, sur cette fin de semaine, on sera en live avec Tennis Matrix et Florent Serra sur notre chaîne YouTube pour revenir de façon plus profonde sur le tirage au sort de l'US Open. Donc on aura vraiment l'œil expert d'un ancien joueur, Florent Serra, qui a été 36e mondial. Donc si je reviens à mes pronostics, les cartes théoriques: Alcaraz Sinner, Medvedev Rublev, Rude, Rune, Djokovic, Tsitsipas. Et au niveau des cartes que je vais pronostiquer, il y a beaucoup de paris osés parce que comme je te l'ai dit, il y a certaines parties de tableau qui sont un petit peu déséquilibrées avec des gros coupeurs de tête et des matchs pièges en termes de match-up. Le premier quart, je le vois. Alcaraz, Sinner, je pense que voilà, on aura un peu le remake du quart de l'an dernier. Je vois pas le Medvedev Rublev, mais plutôt un demi-nord Jurkač. Je sais, c'est très osé, les deux n'ont pas de grande référence en grand chelem, mais je mise sur la confiance de ces deux joueurs par rapport à l'été qu'ils ont eu, et surtout au manque de confiance des deux principales têtes de série, donc Medvedev et Rublev, qui ont des matchs, comme je te le disais, compliqués à négocier. Ensuite, troisième quart, pas de Rune ni de Rude, mais plutôt Tiafoe et Paul. J'ai hésité avec le Davidovich Fokina, également avec Holger, mais pour moi, avec ses pépins physiques au poignet et au dos, je sais pas s'il sera remis à temps. Je pense le Danois a un bon coup à jouer, mais là, je vais plutôt voilà miser sur la forme d'un Tommy Paul et peut-être ses petites blessures pour Holger Rune. Et enfin, je vois un Djokovic maintenir son rang avec son tableau qu'il a tranquille contre Taylor Fritz. Au niveau des demi-finales, Sinner contre Jurkač et Djokovic contre Tommy Paul. Et je vois une finale Djokovic-Sinner avec Djokovic qui décroche son 24e titre en Grand Chelem. Je sais, c'est un peu what the fuck au niveau des pronos que j'ai mis en avant. Parce que, voilà, c'est difficilement lisible par rapport aux formes et aux méformes actuelles. En tout cas, une certitude, c'est que Djokovic a un très bon tableau. Alcaraz, ça devient compliqué à partir de son quart de finale, mais il y a tout ce contexte qui va peser petit à petit quand il va avancer dans la compétition. Donc peut-être qu'il peut aller plus loin, c'est clairement possible. Après voilà, je pense qu'il y aura pas mal de surprises. Encore une fois, je ne vois pas Alcaraz conserver son titre. C'est justement comment j'ai nommé cette vidéo. On verra dans deux semaines, il nous épate ce gamin. Mais là, voilà, je vois plutôt l'avantage concernant Novak Djokovic, qui ça lui a fait du bien de pas gagner à Wimbledon pour pas avoir la pression du grand chelem. Tous les voyants sont au vert pour lui. En plus, il a une partie de tableau. Vraiment, c'est du pain béni par rapport à ce qu'il avait en 2019 et 2021. Donc, je le vois aller au bout avec ce finaliste surprise, Yannick Sinner. Mais bon, ça peut être quelqu'un d'autre. Je pense que j'ai pris pas mal de risques dans mes paris. Si tu veux patienter jusqu'à l'US Open, je t'invite à aller voir cette vidéo sur Novak Djokovic. On a vraiment dressé le portrait du Serbe pour essayer de comprendre un petit peu mieux sa personnalité. C'est sans aucun doute la vidéo la plus travaillée de notre chaîne. Donc nous, on se retrouve de l'autre côté de l'écran.